me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment peut-on admirer, détruire et documenter à la fois ? Comment l'expansion coloniale des grands empires européens a-t-elle nourri les musées ethnographiques ? Comment les œuvres enlevées de leur pays d'origine au cours d'expéditions scientifiques mais aussi de pillages ont-elles enrichi un British Museum mais aussi de grands musées spécifiques consacrés à l'ethnographie à Paris, à Berlin, mais également dans de petites villes, demande l'historienne de l'art Bénédicte Savoie. Comment les musées coloniaux ont-ils été créés ? Comment les œuvres, ravies lors de prises violentes comme au Bénin, marquent-elles non le départ de pierres ou d'ivoires gravées, mais de véritables bibliothèques ? Comment est-ce la mémoire des peuples conquis qui est partie avec ces objets ? Bénédicte Savoie, qui a été nommée experte culturelle pour la restitution du patrimoine africain récemment par le président de la République, est titulaire de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e-20e siècle, au Collège de France, et professeure à la Technische Universität de Berlin. Elle poursuit sa grande enquête autour de la constitution du patrimoine des musées européens et son analyse des translocations des objets d'art, entendez par ce mot, leur déplacement et les phénomènes d'appropriation de biens culturels en Europe, qu'ils soient acquis dans un cadre légal ou spoliés en temps de guerre, dans sa série intitulée « Histoire transnationale des musées en Europe ». Dans un texte engagé, publié au journal Le Monde en janvier 2018, l'historienne est revenue sur l'engagement d'Emmanuel Macron de rendre à l'Afrique les œuvres issues des pillages coloniaux. Elle rappelle, et je la cite, « S'il concerne d'abord Paris et ses prestigieuses collections d'art africain, le discours de Ouagadougou engage aussi l'Europe et le substrat colonial ou missionnaire de tous ces musées ethnologiques ou dits « universels ». L'histoire des collections africaines est une histoire européenne bien partagée, une affaire de famille si l'on veut, où curiosité esthétique, intérêt scientifique, expédition militaire, réseaux commerciaux et opportunités en tout genre ont contribué à nourrir des logiques de domination, d'affirmation et de rivalité nationale. Les musées de nos capitales sont les conservatoires brillants de la créativité humaine. Ils sont aussi les dépositaires, bien malgré eux, d'une histoire plus sombre et trop rarement racontée. Aujourd'hui encore, en France comme ailleurs en Europe, le simple mot de restitution suscite un réflexe quasi rotulien de défense et de repli. Peut-on dès lors envisager des restitutions heureuses et consenties, motivées par le double intérêt des peuples et des objets ? Comment opérer un partage plus juste, demande-t-elle encore aujourd'hui ? Et nous gagnons le Collège de France le 4 avril 2018 pour le cours de Bénédicte Savoie, aujourd'hui, admirer et détruire.
Et j'avais dit en début de cours que ce cours de la dernière fois, Gigantomanie, était lié chronologiquement à celui d'aujourd'hui, qui s'intitule « Admirer et détruire » et qui va porter en particulier sur les collections ethnographiques qui se forment ou qui augmentent considérablement, elles aussi, dans ce dernier tiers du 19e siècle. Donc nous sommes toujours à partir de 1875, 1878, 1880 et nous allons voir comment l'époque coloniale grossit les musées européens à son tour et comment, devant l'arrivée de ces objets d'origine souvent africaine ou océanienne, l'arrivée très massive, comment réagissent les musées européens. Le cours, comme toujours, s'articule en trois volets. Le premier s'intitule « Destruction, documentation ». Le second, « Des musées pour les autres ». Le troisième, « En avoir ou pas ». Et puis, comme toujours, la petite incise méthodologique intitulée ici « Photo interdite » où j'aimerais évoquer la question de la photographie dans les musées comme source historique. Je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'il était parfois difficile de reconstituer l'histoire des musées si on se fiait simplement aux sources que nous livrent ces musées, c'est-à-dire des catalogues, principalement des catalogues. Et que parfois il est nécessaire de solliciter les récits des voyageurs ou aussi la photographie. Mais il se trouve que l'histoire des musées, et en particulier au XIXe siècle, est une histoire de combat contre la photographie. Vous voyez ici un arrêté pris à Paris, mais on pourrait trouver le même genre d'arrêté à Berlin, à Dresde, à Londres. Un arrêté pris en 1866, c'est-à-dire à une époque où la photographie existe déjà, où on pourrait s'attendre, quand on est historien, à trouver de belles photographies des salles pour comprendre comment elles étaient agencées, etc. Et vous voyez écrit ici, le sénateur surintendant des Beaux-Arts, considérant que les permis de photographier dans les galeries du Louvre sont reconnus nuisibles à la conservation des monuments, que messieurs les photographes apportent la plus grande négligence à leurs opérations et répandent dans les salles qu'ils considèrent comme des ateliers, des substances corrosives altérant les parquets et les escaliers. Donc, c'est pas contre les œuvres d'art, hein. C'est vraiment le mobilier qui, à cette époque chimique, souffre. Arrête. Article 1er. À partir du 1er août, les permis de photographier dans les galeries sont retirés, sans exception aucune, jusqu'à nouvel ordre. Et le résultat de cette négligence des photographes, et puis aussi des questions de droit de l'image, mène à une sorte d'absence d'image ou d'absence de photographie des musées du XIXe siècle. Pas une absence totale, mais un petit nombre qui nous gêne, nous autres historiens. Et quand on trouve des photographies des salles, et encore mieux, et encore plus rares, très très rares, des photographies des salles avec des visiteurs, ce sont toujours de grands moments. Je vous montre une photographie précoce ici, prise dans d'un cycle de photographies de la fin des années 1850 au British Museum, qui nous permet, quand on les trouve, donc ces photographies, de comprendre un peu l'agencement des œuvres, sinon on en est réduit à des catalogues qui sont des textes ou à des reproductions des œuvres. Mais le musée comme espace, comme lieu où l'on voit avec son corps, en quelque sorte, est mal documenté par la photographie jusqu'au XXe siècle, hélas. Destruction, documentation. Nous avons évoqué déjà l'arrivée au XVIIIe siècle dans le cadre d'expéditions d'œuvres d'art venues dans le cas d'œuvres d'art ou d'objets ethnographiques extra-européens venus notamment de l'océan Pacifique. Vous voyez ici des œuvres rapportées par James Cook lors de ses expéditions, œuvres qui étaient venues peupler les musées, plusieurs musées européens, même s'ils avaient à l'origine une seule expédition. Ceux de James Cook sont venus à Londres, à Oxford, en partie à Vienne, par le biais du marché de l'art, et aussi à Göttingen, puisqu'il y avait des alliances dynastiques entre le royaume de Hanovre et la Grande-Bretagne. L'expédition de Cook avait été financée par la couronne britannique. Nous avions évoqué aussi certaines expéditions en Sibérie, avec ici un fétiche venu aussi, ou don d'un collectionneur privé fait au musée universitaire de Göttingen. Mais c'est ce type d'objets étaient restés en minorité dans les musées jusqu'au milieu du XIXe siècle. Objets, donc, qui ne sont pas des objets d'archéologie. On a des objets extra-européens comme les antiquités égyptiennes, les antiquités assyriennes qui arrivent en Europe, mais ce sont des antiquités. Elles ont le statut de témoignage de l'humanité. Tandis que les œuvres ici dont on parle sont des œuvres qui documentent la vie quotidienne ou les croyances ou la religiosité d'autres peuples contemporains de ceux qui les prennent. On n'est pas dans une logique ici de distance historique, on est dans une logique de distance géographique et d'intérêt pour la curiosité d'autres peuples. Avec l'époque coloniale qui commence au milieu du XIXe siècle, les collections de ce type vont devenir de plus en plus nombreuses, la collecte va être de plus en plus systématique, et ces œuvres, ces objets, ces artefacts, comme on dit aussi, ce ne sont pas toutes des œuvres d'art, certaines le sont, vont venir en masse dans les collections des différents pays d'Europe. Je vous montre ici trois ou quatre cartes de suite qui montrent l'étendue des domaines coloniaux. Alors celui de la France vous est bien connu, on est à peu près ici à la fin du XIXe siècle, vous voyez donc ici une carte générale de l'empire colonial français en rouge, et puis dans les différents segments ici, les détails de cet empire colonial avec l'Afrique qui joue le rôle principal, l'Afrique de l'Ouest, mais aussi ici en Asie, différentes possessions. Et de toutes ces possessions, au fur et à mesure, au cours des dernières décennies du XIXe siècle, vont arriver des œuvres d'art dans la capitale, en général dans la capitale, à Paris. Ce qui vaut pour le domaine colonial français, qui nous est familier ici, vaut aussi, bien sûr, pour l'empire colonial britannique, qui comporte lui aussi d'importantes possessions en Afrique, évidemment dans le Pacifique, et puis en Amérique du Nord, avec l'arrivée, et l'Inde bien sûr, pardon, l'Inde, avec ici aussi, à partir des années 1850 au plus tard, l'arrivée, et puis dans les années 80 pour ce qui concerne l'Afrique, l'arrivée d'œuvres à Londres cette fois. Donc chaque empire colonial, en quelque sorte, va puiser dans ses colonies des œuvres d'art, des artefacts, des objets, d'ethnographie, et les faire venir dans ses propres collections. Et on verra que cette venue ne se limite pas aux collections directement liées aux empires coloniaux. Les Allemands aussi ont un empire colonial tardif. Vous connaissez l'expression du fait que les Allemands veulent aussi tardivement au XIXe siècle avoir leur place au soleil. Ils ont tenté eux aussi de se faire une place entre l'Angleterre et la France dans le monde, qui leur vaut donc après 1884-1885, j'y reviendrai, la prise de quatre régions en Afrique, mais aussi ici de toutes ces petites îles du Pacifique, des îles qui portent des noms comme l'archipel Bismarck ou le Nouveau-Mecklembourg. Tout ça, on est à la fin du XIXe siècle, et là encore, les œuvres ou les objets d'art ou même les objets du quotidien trouvés dans ces régions vont venir alimenter les musées du Reich allemand, pas seulement de la capitale Berlin, mais aussi, puisque la structure est différente, n'est pas centralisée comme en France, mais aussi, par exemple, les musées de Dresde, de Leipzig, de Stuttgart, de Hambourg. On y reviendra dans un instant. Et puis, à cela s'ajoutent les plus petites colonies, les colonies de l'Italie, notamment en Éthiopie, du Portugal, notamment le Mozambique en Afrique, des Pays-Bas, en particulier dans les îles pacifiques. Et puis, cette carte ne le montre pas, mais bien sûr, évidemment, aussi de la Belgique avec le Congo, dont on sait bien en Centrafrique qu'il était occupé par les Belges. L'année clé pour ce qui concerne le patrimoine africain, c'est l'année 1884-1885, c'est-à-dire l'année même, souvenez-vous, où les Berlinois fantasmaient sur leur grand musée d'antiquité, où ils imaginaient placer les restes d'Olympie et les restes de Pergame à la pointe de l'île des musées. Et exactement au même moment où ce concours d'architecture a lieu de l'autre côté, c'est-à-dire ici, ici on a l'île des musées, et puis ici Unter den Linden, et ici vous avez le château des Hohenzollern, le château royal de Prusse, et exactement dans ce château, exactement à cette époque, va avoir lieu la conférence de Berlin, en 1884-1885, qui est la conférence au cours de laquelle les pays européens vont se partager l'Afrique. On le voit ici dans cette caricature, l'Afrique est représentée comme un gâteau, et Bismarck, avec son grand couteau, va la partager en parts égales, jusqu'à ce que chaque pays européen soit servi en quelque sorte. Vous voyez ici, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, le Portugal auront, à partir de 1884-1885, des possessions dans l'ensemble de l'Afrique, possessions qui, dans bien des cas, viennent entériner une présence déjà existante depuis quelques décennies. Mais à partir de 1884-1885, on entre vraiment dans l'ère coloniale, ère coloniale qui va être utilisée par les musées de manière très active pour enrichir leur collection et leur connaissance des peuples conquis ou colonisés. Je vous montre ici deux pages d'un catalogue de vente d'un marchand de Hambourg qui s'appelait Museum Umlauf, donc le marchand, la galerie elle-même porte le titre de musée, et ce n'est pas un hasard qu'elle se trouve à Hambourg, puisque dans toutes les villes portuaires, donc à Hambourg, au Havre, à Nantes, à Bordeaux, arrivent ces œuvres, et c'est souvent directement dans les ports que se fait le dispatchage ou que se trouvent les marchands qui ensuite, s'il ne s'est pas agi d'expédition ordonnée par les États, vont vendre ces œuvres à différents musées européens. Donc vous voyez ici, par exemple, l'offre, une offre d'objets africains, de fétiches africains, arrivés au musée Umlauf à la fin du XIXe siècle. Le même musée Umlauf, vous voyez ici comment ça s'écrit, Museum Umlauf Hamburg, reçoit des œuvres ou des objets d'art venus des colonies allemandes du Pacifique et va en faire un large, un large commerce à Hambourg. Alors pour comprendre la logique qui préside à cette grande collecte, qui évidemment, les musées ne jouent pas le rôle principal dans la colonisation, ce ne sont pas eux qui sont sur place, mais ils vont profiter des structures coloniales pour augmenter leur collection. Et on comprend très bien la logique de lien entre la colonisation et les musées. Si on lit par exemple cet ouvrage de Henry Ling Roth, un conservateur de musées britannique, qui a consacré un livre important au Bénin, qui n'est pas le Bénin actuel, mais qui est aujourd'hui le Nigeria. Avec 275 illustrations, ce Ross était anthropologue et il explique pourquoi il faut collecter dans les pays que l'on colonise. J'ai traduit directement en français, il écrit. C'est un passage dans un livre très important sur le Bénin, l'actuel Nigeria. Contrairement aux Tasmaniens ou aux anciens Péruviens, l'Afrique de l'Ouest ne sera jamais effacée de la surface de la Terre, mais les rapports avec l'homme blanc modifient ses croyances, ses idées, ses coutumes et sa technologie, et il faut en prendre note avant de les détruire. On voit bien qu'il y a un double mouvement de l'homme blanc, celui qu'il appelle l'homme blanc qui arrive dans ces pays, et a bien conscience, en arrivant, de détruire ces pays ou de modifier leurs coutumes, leurs idées, leurs technologies. Et on est donc dans une double logique, en quelque sorte, de conscience de la destruction, alors même si ce ne sont pas les anthropologues qui détruisent, mais les armées, les administrations, le commerce, les logiques capitalistes, destruction, et les anthropologues, tout en constatant cette destruction, décident de prendre note avant de détruire. Les choses marchent ensemble. Et c'est très important pour comprendre la logique de ces musées ensuite. La destruction se poursuit à un rythme soutenu, l'une des causes principales étant l'enseignement européen inadapté, donné aux races indigènes en général, inadapté à celles-ci en raison des grandes différences physiques et mentales qui existent entre l'homme blanc et l'homme noir. On voit bien qu'on est dans une logique d'évidence de la supériorité de la race blanche, évidence aussi de la destruction. On y va, on détruit. Ici, aucune marque de regret de ces destructions. Mais avant de détruire, on documente. Et une partie de cette documentation, c'est ici formulé par un Britannique, mais vous trouverez des textes de ce genre en langue française, en langue allemande et dans tous les pays colonisateurs. La logique donc de ces musées, c'est de collecter des témoignages matériels de ces cultures, d'une part, et de collecter par les descriptions les pratiques, enfin en tout cas de documenter les pratiques liées à ces objets, ce qui donne naissance donc à l'anthropologie moderne en quelque sorte. Autre motivation liée à cette anthropologie, c'est-à-dire à cette étude des autres, telle qu'elle est formulée par les directeurs de musées, par les anthropologues de la fin. Ici, c'est un texte de 1903, écrit dans les années qui ont précédé, donc à la fin du XIXe siècle. C'est que si on connaît la culture des autres, c'est-à-dire aussi leur culture matérielle, on pourra mieux les maîtriser politiquement et économiquement. Je vous lis cet autre passage du même ouvrage de Ross. « Sur le plan politique, il est de la première importance que nos dirigeants aient une connaissance approfondie des races autochtones qui leur sont soumises, et c'est la connaissance que l'anthropologie peut leur donner. » car cette connaissance peut enseigner quelles méthodes de gouvernement et quelles formes de taxation sont les plus adaptées aux tribus particulières ou aux stades de civilisation dans lesquels nous les trouvons. Donc, on arrive, on détruit, mais on documente, et on documente aussi pour pouvoir mieux exploiter. Voilà la logique qui préside à ces collectes, qui donc n'est pas dans un premier temps une logique esthétique. On ne tombe pas dans une grande émotion devant la beauté de ces œuvres, ce n'est pas ça le primat, sûrement que ça joue un rôle, et plus tard, quand ces œuvres reviennent, mais sur place, l'idée c'est de documenter avant la disparition de ces civilisations et de mieux connaître les civilisations. Si on fait parler le directeur du musée ethnographique de Berlin, Felix von Luschan, j'ai pris différentes voies pour que vous voyez qu'il y a un discours assez homogène sur ces questions dans toute l'Europe. Si on fait parler Felix von Luschan, le directeur du musée ethnographique de Berlin, on voit que la structure coloniale va être exploitée, va être utilisée, va être mise à profit par les musées. Il écrit par exemple, également à la toute fin du XIXe siècle, « Le département colonial du ministère fédéral des Affaires étrangères, sous-entendu allemande, la marine, les gouverneurs des zones protégées et un grand nombre de médecins, de fonctionnaires et d'officiers sont imprégnés de l'importance scientifique et pratique de l'ethnologie et soutiennent fortement nos efforts. » Ce qui est intéressant, donc, c'est de voir ici combien les directeurs de musées restent sur place, en quelque sorte, dans leur capitale, mais s'appuient sur l'infrastructure coloniale, sur donc, le ministère, mais aussi sur les gouverneurs des zones protégées, les médecins, les fonctionnaires et les officiers, qui sont instruits, en quelque sorte, plus ou moins bien, mais qui savent que les musées ont besoin d'œuvres et qui vont collecter, en plus de leurs activités, j'allais dire coloniale habituelle, non, c'est pas exactement le bon terme, mais en tout cas, qui vont avoir une pratique de collecte pour les musées. Ils sont un peu téléguidés par les musées qui leur expliquent ce qui est important et ils vont livrer, ou en tout cas emporter des œuvres. Ce type de personnage, je vous en montre quelques-uns hein, pour vous montrer la diversité des personnes impliqué dans ces collectes. Ici, vous voyez Pierre Savorgnan de Brazza. Il a joué un rôle dans la colonisation du Congo. Il a la réputation d'avoir été un grand pacifique. Il a considérablement collectionné, notamment de manière pacifique, dit-on, notamment pour le musée du Quai Branly, enfin pour le musée d'ethnographie du Trocadéro, qui est devenu le musée de l'homme, qui est devenu le musée du Quai Branly. Vous voyez des administrateurs coloniaux comme celui-ci, qui lui aussi, enfin qui tous, en fait ici il sert d'exemple, mais ces administrateurs qui sur place sont en contact avec les populations et avec l'aide ou non des armes ou de menaces réussissent à emporter des œuvres importantes. Et vous avez les missionnaires également, comme celui-ci, missionnaires qui sont en contact avec les religieux, qu'ils essayent de christianiser en général et qui, en les christianisant, enfin en contact avec eux, peuvent emporter ou les séparer de leurs fétiches. À côté de ces personnages qui agissent de manière individuelle sur place dans le cadre d'un maillage assez étroit de l'administration coloniale, à côté de ça, s'ajoutent les grandes expéditions punitives de la deuxième moitié du XIXe siècle qui porte sur l'Asie. Vous vous souvenez du pillage du palais d'été lors de la seconde guerre de l'opium en 1860-1861, par exemple, mais qui porte aussi, et je me suis concentrée ici particulièrement sur l'Afrique, sur plusieurs régions africaines. Ici, il s'agit d'une pièce de musique qui commémore la prise de Magdala. Magdala, c'est une forteresse qui se trouve dans l'actuelle Éthiopie, et dans laquelle l'empereur éthiopien avait notamment réuni des manuscrits précieux de tout le territoire éthiopien. Il les avait réunis là, notamment, mais d'autres objets précieux aussi. Et lors d'une expédition punitive, cette bibliothèque, notamment, a été dilapidée et emportée en partie à Londres par les officiers britanniques. Mais comme cette armée britannique était aussi composée d'officiers indiens, on retrouve aujourd'hui de grandes quantités de ces manuscrits éthiopiens pris à Magdala, par exemple en Inde. Et on en trouve aussi à Berlin, on en trouve dans toute l'Europe. L'origine de cette diaspora, c'est cette expédition punitive de 1868. On peut en évoquer d'autres, celle du Dahomey en 1892. Vous voyez ici des fétiches saisis, donc le Dahomey c'est l'actuel Bénin, pardon, des fétiches saisis par l'armée française et emporté, et qu'on peut voir aujourd'hui au musée du Quai Branly. Ou encore, je vous montre ici, puisque j'ai souvent rappelé que ces questions de patrimoine font l'objet aussi d'une filmographie importante, l'expédition punitive qui a porté sur la ville de Benin City, dans l'actuel Nigeria, en 1897. Vous voyez ici un film récent intitulé « Invasion » 1897, qui rappelle la destruction de Benin City et la prise de tous les objets dynastiques qui étaient dans le palais du roi. J'y reviendrai tout à l'heure, des biens extrêmement précieux, et notamment ce qu'on appelle les bronzes du Bénin. J'y reviendrai.
Le Collège de France et France Culture vous présente l'historienne de l'art Bénédicte Savoie. Aujourd'hui, admirer et détruire.
Donc, on a différents types de collègues, des collègues, disons, dans le cadre colonial, qui n'est pas un cadre pacifique, mais à l'intérieur de ce cadre non pacifique, qui sont plutôt pacifiques, ou en tout cas plutôt qui semblent avoir été le fait d'un échange avec les populations, ou d'autres qui sont carrément violentes, et on peut penser que vraiment du sang colle à ces œuvres d'art qui ont été transportées chez nous. Les pratiques de guerre du XIXe siècle, de ces expéditions, prévoyaient que lorsque des pillages avaient eu lieu, et vous voyez ici une scène en Birmanie, après le pillage d'un palais birman, une scène où des officiers vendent aux enchères à l'armée le butin réalisé, sachant qu'ensuite, quand ces officiers achètent au meilleur prix ces objets, ils les rapportent en Europe et qu'ils les font aller soit dans des musées, soit sur le marché, etc. Mais en tout cas, le début du marché, le début de la capitalisation de ces œuvres d'art, qui souvent, ou de ces objets de décoration ou religieux, se fait souvent déjà sur place. Et puisque j'évoquais les bronzes du Bénin et le pillage de Benin City en 1897, je vous montre ici une scène où on voit les Britanniques en 1897, plusieurs officiers britanniques en 1897 devant leur prise. Et ces prises étaient constituées donc en partie de ce qu'on appelle les bronzes du Bénin, qui sont des bronzes ou des œuvres, pas forcément en bronze, aussi en laiton, qui existent depuis le XVIe, qui existaient depuis, qui dataient d'une période du XVIe au XVIIIe siècle et qui notamment décoraient le palais royal de Benin City. Donc ils étaient aussi appliqués ici, ce sont des œuvres en pleine bosse, mais il s'agissait aussi d'œuvres qui étaient appliquées au mur du palais royal, qui ont été complètement arrachées par les soldats et transportées par les officiers et transférées en Angleterre dans un premier temps, et puis de grandes quantités d'ivoire gravé qui raconte des histoires. Ce qui est très important de comprendre, c'est que ces œuvres étaient dans un contexte, le contexte du roi. Elles n'étaient pas faites pour être vues par tout le monde. Elles n'ont pas été prises dans des musées, évidemment. Elles ont été prises dans un complexe, le complexe d'un palais. Et que, d'une part, et d'autre part, ce qui est important de comprendre, c'est que, notamment, les plaques de laiton qui étaient appliquées sur ce palais racontaient des histoires. Un petit peu comme les Bibles des pauvres, si vous voulez. C'était des lieux où était racontée l'histoire de cette dynastie, y compris ici, sur ces ivoires gravés. Donc, en quelque sorte, ce sont des bibliothèques, où ce sont des lieux où, quand on avait accès à ces objets, on pouvait lire sa propre histoire. Et être privé de ça, c'est être en quelque sorte privé aussi de sa mémoire. De toute façon, ici à Benin City, le palais a été complètement détruit. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les directeurs de musées ou les anthropologues, les ethnologues suivent très précisément ces expéditions punitives et voient s'ils vont pouvoir en profiter et surtout prennent soin que ce soit leur musée qui en profite et pas d'autres musées. Je vous remontre un extrait du livre de Ross. Il explique, donc il parle de l'expédition punitive qui a été menée à Benin City et il explique, lorsqu'au retour des membres de l'expédition punitive, on a appris que de beaux spécimens de bronze et d'ivoire et de bois avaient été trouvés dans la vieille ville du Grand Bénin. Monsieur Charles Lyer, le gardien des antiquités au British Museum, avec une énergie caractéristique, s'est tout de suite efforcé d'obtenir pour la collection nationale de bons spécimens représentatifs de ces bronzes et il a réussi à rassembler la plus belle collection de plaques, c'est ces plaques que j'évoquais à l'instant, que l'on puisse trouver dans n'importe quel musée. Donc on voit ici comment, puisqu'il s'agit d'une expédition punitive de l'armée britannique, comment le British Museum est aux premières loges, en quelque sorte, pour se servir et pour obtenir une collection importante. Dans d'autres cas, je reprends Félix von Luschan, directeur du musée ethnographique de Berlin. On a une logique semblable, même en amont des expéditions punitives. Vous voyez, dans le cas précédent, le directeur a appris au retour des membres de l'expédition punitive qu'il y avait de belles choses à voir. Dans le cas de Luschan, il apprend qu'il va y avoir une expédition punitive et vraiment, il met ses cartes déjà. Il écrit « Le ministère fédéral des Affaires étrangères nous a envoyé une collection très spectaculaire de fétiches et d'autres sculptures d'un genre complètement nouveau provenant de l'expédition de punition punitive N'Golo du capitaine von Kant d'une valeur de 2000 à 3000 marks, une acquisition tout à fait merveilleuse. » Et il poursuit « De plus, l'un de mes auditeurs actuels, le lieutenant von Arnim, se joindra à une nouvelle et grande expédition punitive contre le N'Golo, strictement secret. On peut donc s'attendre à des choses très brillantes. Monsieur von Arnim est bien informé de ce dont nous avons besoin et tentera de faire quelque chose de très soigné. Le coup sera probablement nul. » On ne peut pas être plus explicite sur la manière de procéder de ces grands musées. Et ce que fait notre Félix von Luschan à Berlin, les autres le font de manière peut-être moins explicite parce qu'ils sont moins loquaces, mais en tout cas, c'est la logique qui préside à la constitution de ces collections à la fin, notamment africaines, à la fin du XIXe siècle. Ce qui est intéressant, peut-être, d'évoquer ici, c'est que exactement à la même époque, par exemple, est créé au Caire, par la France, par Auguste Mariette, le premier musée égyptien sur place. C'est-à-dire que pour l'Égypte, pour la Grèce, souvenez-vous du musée d'Olympie qu'on avait déjà évoqué, pour l'Égypte, pour la Grèce, les consciences européennes commencent à sentir qu'on ne peut pas tout exporter et qu'il faut aussi créer des musées sur place. Ici, dans le cas africain et dans le cas des colonies en général, évidemment, pas question de créer des musées sur place. On détruit et on emporte. On détruit, on documente, on emporte. Vous voyez ici un siège royal venu la campagne du Dahomey tel qu'il a été présenté au musée d'ethnographie du Trocadéro. Et vous voyez que dans sa présentation dans le musée était bien précisé qu'il s'agissait, donc on nous explique la fonction de l'objet, siège royal en bois sculpté, sa matière, le roi et sa cour, donc ce qu'il représente, sa provenance, Kana Dahomey, et son origine, dont du général Dotz, numéro, etc. Le général Dotz ayant été celui qui a mené l'expédition punitive contre les rois en 1892. C'est-à-dire que ce général donc revient chargé d'un butin de guerre qu'il offre, qu'il donne à l'État français et, dans ce cas précis, au musée d'ethnographie du Trocadéro. On reviendra dans un instant sur ce musée. Aujourd'hui, ou parfois, quand on évoque la question des restitutions, on sait que juridiquement, on ne peut pas restituer un don. Ça, c'est un don du général Dotz. Donc, si on voulait restituer, il faudrait le rendre à la famille des Dotz. Et il y a des constructions juridiques complexes qui régissent les dons au musée et qui font que, quand on évoque la question d'éventuelles restitutions, les choses ne sont pas du tout simples. Et ce cartel ici est particulièrement explicite. Aujourd'hui, quand vous allez au musée du Quai Branly, si je ne me trompe pas, vous ne verrez pas écrit aussi explicitement et en aussi gros et en aussi clair qu'il s'agit du don d'un général qui a mené l'expédition de 1892. Je ne crois pas, il faudrait vérifier. On a été là pendant un instant sur place, en quelque sorte. On a vu des directeurs de musée qui téléguident leurs agents ou leurs contacts sur place lors d'expéditions punitives ou dans le cadre d'expéditions dites punitives, d'ailleurs. Le terme c'est le terme de l'époque, hein, il faut le nuancer, et qui téléguident leur collecte, leur acquisition, qui leur expliquent ce qu'ils veulent. Et on a vu que le dispatchage de ces collections commençait sur place, soit que des généraux partaient avec leurs prises, soit que des ventes aux enchères étaient effectuées sur place. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec ces objets lorsqu'ils arrivent en Europe, lorsqu'ils sont ici, chez nous. Vous voyez ici certaines des plaques. On reconnaît ces plaques de laiton ou ces plaques dites de bronze, mais c'est un alliage qui n'est pas exactement du bronze, qu'on reconnaît aux petits trous ici. Hein. Ce sont des plaques qui étaient appliquées dans un décor qui représentent des poissons. Plaques issues de l'expédition dite punitive de Benin City en 1897 et arrivé dans un premier temps en Angleterre. Vous voyez ici une lettre adressée par un certain Webster qui est collector, donc collectionneur de spécimens ethnographiques et d'art européen, etc., à Oxford. C'est-à-dire que ces bronzes dits du Bénin, ou ce qu'on appelle les bronzes du Bénin, quand ils sont arrivés en Angleterre, ils ont été d'abord, les meilleures pièces ont été données ou étaient prises par le British Museum, et tout ce qui formait le surplus a été vendu, a été dispersé sur le marché de l'art, et de grands collectionneurs les ont acquis, en ont fait des collections pour eux, qu'ils ont ensuite revendues à d'autres. Cette lettre-là est adressée au musée de Vienne, où ce monsieur Webster explique que les représentations de poissons sont extrêmement rares et qu'il en propose pour telle et telle somme et que ce sont, ici, c'est ma dernière offre, si vous les voulez, vous les achetez, sinon, non. On voit donc que ces collectionneurs, depuis l'Angleterre, vont s'adresser à différents musées d'Europe pour tenter d'attirer leur attention sur la présence de ces bronzes et de leur en faire acheter, ce qui fonctionne extrêmement bien. Les musées qui ont le plus acheté de bronzes du Bénin en Angleterre sont les musées allemands. Vous savez qu'autour de 1900, l'Empire allemand est extrêmement riche. Donc ce sont les musées les plus riches, beaucoup plus riches que les Français, beaucoup plus riches que d'autres pays. Et donc ils ont acheté pour des sommes importantes un grand nombre d'œuvres, si bien que les bronzes dits du Bénin sont aujourd'hui très très bien représentés à Berlin, à Stuttgart, à Vienne, que j'évoquais, et puis à Hambourg. Et pas seulement en Angleterre. Vous voyez ici un autre exemple d'œuvres saisies lors de l'expédition de 1887 à Benin City, donc deux coques, une plaque représentant deux guerriers et puis une tête. Et là encore, si on regarde cette carte, si on la tourne, on voit qu'il s'agit donc bronzes aus Benin, des bronzes du Bénin, proposés par un Paul Fischer, par un monsieur Fischer de Breslau. Breslau, c'est Wroclaw, en Silésie, et qui lui aussi, avec ses cartes de vente, propose des œuvres à l'achat dans l'Europe entière. Donc là, on a vraiment une dispersion de ces œuvres qui, pour certaines ou pour grand nombre d'entre elles, finissent dans les musées. Et si on regarde ce genre de catalogue de vente, ici du Muséum Umlauft, que j'avais déjà évoqué tout à l'heure, qui se trouve à Hambourg, on voit qu'arrive à Hambourg une collection de Nouvelle-Calédonie qui va être vendue au musée d'ethnographie de Leipzig, donc de grande circulation à l'intérieur de l'Europe de ces œuvres provenant des colonies. Évidemment, comme dans le cas des collections de peinture, comme dans le cas des collections d'antiquités, l'arrivée de ces objets précieux ou nouveaux ou qui attirent l'attention ou qui paraissent spectaculaires dans le cas des bronzes du Bénin, l'arrivée de ces objets en Europe crée une émulation entre les musées ou même en fait une grande concurrence. Je disais tout à l'heure que les musées allemands sont les plus riches. Ça agace considérablement les musées britanniques qui sont moins riches et qui aimeraient bien, puisque c'était leur expédition punitive, garder tout ça. Je vous montre un extrait toujours du texte de Ross qui est très intéressant parce qu'il nous montre comment il considère que ces œuvres, certaines d'entre elles qui ont été vendues aux Allemands, sont perdues pour la Grande-Bretagne. À aucun moment, il évoque l'idée qu'elles ont été perdues pour Benin City ou pour l'actuel Nigeria, mais en revanche, là, il est très mécontent que l'Angleterre les ait perdues. Deuxième volet, des musées pour les autres. Alors, que se passe-t-il avec ces œuvres qui arrivent, soit directement, soit indirectement, par le biais du marché de l'art, et comment nos musées qui déjà, souvenez-vous, craquent, en quelque sorte, ont été agrandis, ont été réaménagés, mais craquent déjà sous le poids des antiquités, des 14 musées impériaux dans Louvre, etc. Comment tout cela va être accueilli et qu'est-ce qu'on en fait dans les capitales? Ils ont une très grande valeur, mais la question se pose de leur installation et de leur mise en espace. À Paris, va être recyclé, en quelque sorte, le palais du Trocadéro, construit en 1878 pour l'exposition universelle. Vous le voyez ici, l'ancien palais du Trocadéro, donc on reconnaît l'emplacement. Et ce musée, à partir de 1882, va accueillir les collections ethnographiques. On parlera du musée d'ethnographie du Trocadéro, qui sera ensuite fermé au profit du musée de l'Homme en 1837, qui lui-même sera redispatché entre différents musées, notamment le musée du Quai Branly en 2006. Donc, dans ce musée ici, ce musée d'ethnographie du Trocadéro, vont venir les objets ethnographique qui avait été placé au musée du Louvre. Vous voyez que les monuments exposés dans la salle des antiquités américaines ici, on va les retrouver en quelque sorte dans la galerie américaine du musée d'ethnographie du Trocadéro. Donc on peut dire qu'il y a une translocation à l'intérieur de Paris de ces collections. Elles trouvent un autre lieu qui sera le leur dans un état qui n'est pas un très... Enfin, ce musée manque de budget jusque dans les années 1930. Donc elles ne sont pas très bien mises en valeur, mais elles sont en tout cas dans ce lieu où elles seront beaucoup vues. À Berlin, l'île des musées qui est ici, souvenez-vous que les objets d'ethnographie arrivaient dans un premier temps jusqu'à la première moitié du 19e siècle, avaient été placés dans le Neues Museum ici, donc juste derrière le Altes Museum. Et au moment où toutes ces collections ethnographiques arrivent, c'est-à-dire au moment de la période coloniale, du partage de l'Afrique, etc., va être ouvert un nouveau musée à distance, hein, on les met loin, en quelque sorte. Ce n'est pas la périphérie de Berlin, puisque Berlin est une ville polycentrée. Là, vous avez l'île des musées, puis vous avez un autre centre à l'ouest, donc, et la Potsdamer Platz, qui n'est pas loin ici. Donc, on est quand même dans un... On n'est pas à la périphérie de la ville, mais en tout cas, on n'est pas sur l'île des musées qui conserve le grand art antique et européen. Non, on est beaucoup plus loin, dans un musée qui va s'appeler le Königliches Museum für Völkerkunde, le musée royal d'ethnographie, d'études des peuples, que vous voyez ici, qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et qui va accueillir dans cet espace symétrique caractéristique les collections, vous voyez ici le premier étage, les collections donc de Ceylan, d'Afrique, des îles pacifiques, de la Guinée, de l'Amérique centrale et du Sud, du Pérou, de l'Amérique du Nord et de la Sibérie, sur plusieurs étages donc, vont être placés les objets provenant donc non seulement des colonies allemandes, mais aussi de tout ce que les Allemands auront pu acheter sur le marché. Évidemment, les Allemands n'ont pas de colonies en Amérique, ni du Sud, ni du Nord, mais ils acquièrent sur le marché des collections et font de ce musée l'un des plus grands musées jusqu'à sa disparition. Et jusqu'au fait que l'armée russe, en 1945, a emporté une grande partie des collections à Moscou qui n'ont pas été rendues, mais jusqu'aux années 30, c'est l'un des plus grands musées ethnographiques en Europe. Le British Museum, lui, choisit l'option de continuer à grossir. Hein, il ne crée pas un autre musée pour accueillir les collections ethnographiques, mais à partir de cette période-là, le musée d'histoire naturelle, souvenez-vous, les insectes, etc., qui étaient aussi dans le British Museum, vont être placés ailleurs, et ça va faire de la place pour les collections ethnographiques. Donc vous vous souvenez de ce plan où on voyait déjà ce British Museum exploser de toutes parts avec ses très nombreuses collections au rez-de-chaussée, les collections principalement antiques, et au premier étage, ici, vont être installées dans ces salles-ci, donc dans un petit nombre de salles, les collections considérables. Donc, on peut imaginer des salles très pleines, puisque ces collections sont extrêmement importantes, dans cette aile ici du premier étage. Vous voyez au catalogue, si on regarde l'index d'un catalogue du British Museum à la fin du 19e siècle, donc on a toujours toutes les collections auxquelles on a été habitué depuis le début du siècle. Et puis ici, la galerie ethnographique, il est écrit ici, collection ethnographique provenant de différents coins du monde et les antiquités d'Amérique. Et puis, le texte précise que cette galerie ethnographique a un peu grandi n'importe comment. Hein, vous voyez ici, il y a dans cette galerie des œuvres venant de différents endroits du monde, à l'exception de la Chine et du Japon qui sont dans la galerie asiatique, mais elle inclut les antiquités américaines. Une collection de cette nature a été progressivement accumulée au musée, mais n'a pas fait l'objet d'attention spéciale. Et puis on voit ici que ça a continué de grandir et que c'est seulement vers la fin du siècle qu'on tente de créer une systématique là-dedans. S'ajoute à cette expansion des bâtiments muséaux pour les collections ethnographiques, la création de musées d'un type nouveau qui sont les musées coloniaux, le plus célèbre d'entre eux étant le musée colonial de Tervuren en Belgique, près de Bruxelles. On voit ici sur cette carte postale résumer l'histoire de la création de ce musée colonial, le musée qu'on appelle aussi le musée du Congo, Le musée du Congo fut créé par Léopold II lors de l'exposition de Bruxelles en 1897. Donc on est en plein dans cette période de démantèlement en fait des sociétés locales africaines. Il occupa d'abord un bâtiment construit sur l'emplacement du château incendié en 1878. En 1910, on inaugura le palais colonial actuel, c'est celui-ci, construit sur les plans de l'architecte Giraud et qui reproduit le petit palais des Champs-Élysées à Paris. Ce musée du Congo, le musée colonial qui existe aujourd'hui toujours, qui est fermé pour réaménagement en ce moment, mais qui existe et qui comporte des collections absolument phénoménales, non seulement d'histoire naturelle, mais aussi d'art, n'est pas le seul. C'est le plus grand, le plus célèbre. On voit, par exemple, la naissance de musées de ce genre-là, de proportions bien moins grandes, à Lyon, par exemple. Vous voyez ici une photographie des salles du musée colonial de Lyon. On en trouve aussi à Bordeaux, en général dans les villes portuaires. Voilà. Et puis, j'ajoute que de plus petites villes, comme ici Francfort, voient aussi se créer, et dans toute l'Europe, et en Grande-Bretagne bien sûr aussi, de petits musées, municipaux, des petits Volkskundemuseum, städtisches Volkskundemuseum. Donc on a aussi des musées municipaux, on en connaît un à Dunkerque par exemple, ici en France, des musées municipaux d'ethnographie. Donc tout le territoire européen va être, à partir des années 1880-1900, maillé de collections ethnographiques. Je termine avec le dernier volet que j'ai intitulé « En avoir ou pas ?» Et il s'agit ici d'avoir des musées ou pas. C'est-à-dire que dans notre cas, nous les Européens, nous avons ces objets chez nous, dans nos musées, et j'insiste peu parce que c'est bien connu, je crois, ils ont ces objets, notamment africains, générés en Europe au début du XXe siècle, des fécondations artistiques très fortes. On connaît bien le choc qu'a procuré à Picasso la visite des musées ethnographiques. On sait combien les surréalistes sont intéressés à l'art à différentes formes d'art extra-européenne du Mexique, mais aussi d'Océanie, qui les ont collectionnées, mais qui sont aussi entrés en contact avec ces œuvres dans les musées ethnographiques. Je vous montre donc ici une affiche d'une exposition récente au musée du Quai Branly consacrée au lien entre Picasso et l'art africain. Ici, on sait que Man Ray, le grand photographe, avait fait un très grand nombre de photographies au musée du Trocadéro à Paris, ou que dans ces années du musée du Trocadéro, l'ethnographie était devenue une mode pour les artistes contemporains qui s'en inspirent. Ici, il s'agit de Paris, donc ces fécondations, les musées comme lieu de germination, d'invention d'autres choses, d'autres formes, jusqu'aux Demoiselles d'Avignon de Picasso, c'est quelque chose de bien connu qui touche aussi bien sûr les musées allemands. Vous voyez ici un dessin de l'expressionniste Ernst Ludwig Kirchner, qui a dessiné en 1911 cette plaque de bronze venue de Benin City, qui était exposée alors à Dresde. Vous savez que les expressionnistes allemands ont vécu en colonie, en groupe, non seulement à Berlin, mais aussi beaucoup à Dresde. Et le musée d'ethnographie de Dresde, le Volkskundemuseum, a joué un rôle important. Ou un autre exemple, un dessin de Nolde, Émile Nolde, aussi, d'après une œuvre en bronze, une statuette en bronze du Bénin. Donc, là où ces œuvres arrivent, chez nous en quelque sorte, elles produisent quand elles sont exposées, quand elles ne restent pas dans des caisses, quand elles sont mises en valeur. Certaines restent jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas à Berlin, dans des caisses qui n'ont jamais été ouvertes parce qu'on ne sait pas quels insectes risquent d'en sortir ou pour des questions de contamination. Mais enfin, quand ces caisses ont été ouvertes et quand les œuvres ont été mises en valeur, elles ont produit, elles ont suscité une attention, notamment des artistes qui, eux-mêmes, ont créé quelque chose par-dessus. On peut dire qu'il y a eu donc fécondation, voilà, quelque chose de positif, en quelque sorte. Dernier exemple, celui d'une lettre, puisque j'ai évoqué Paris, puis l'Allemagne, et je voudrais évoquer juste un instant ce qui peut se passer quand on va visiter les collections du British Museum autour de 1910, par exemple. Une lettre adressée par André Derain à Matisse, dans la première décennie du XXe siècle, autour de 1906 ou 1908, Derain est allé au British Museum, il est rentré complètement électrisé et il écrit une lettre, une longue lettre à Matisse, dont j'ai quelques extraits ici. « J'ai été pour la cinquième fois au British Museum. Là sont entassés pêle-mêle, pour ainsi dire, suivez-moi bien, les Chinois, les Nègres, les Égyptiens, les Étrusques, Phidias, les Romains, les Indes. Je fus obligée de sortir tellement j'avais des idées confuses devant tout cela. Je me suis insinuée à des milieux, à des vies étrangères à la mienne. J'ai donc agrandi ma conscience par autre chose que des mots, des sensations seules, définies avec, par des formes, des couleurs. Ce n'est plus une idée, mais c'est l'idée absolue, la conscience d'être. Donc on voit bien que ces œuvres, par leur venue en Europe, n'ont pas été simplement, évidemment, des trophées militaires ou des trophées de guerre ou des objets d'études ethnographiques, mais ont transformé les avant-gardes artistiques. Et la question qui se pose, c'est que se passe-t-il, en revanche, dans les pays où ces œuvres ne sont plus et où il n'y a plus aucune œuvre ? Et notamment, ça, c'est particulièrement vrai pour le continent africain, si on pense à l'Amérique du Sud ou centrale, au Mexique, à l'Océanie, des œuvres sont restées dans ces régions, mais en Afrique, très peu d'œuvres sont restées. Et quand on va aujourd'hui en Afrique, il y a des musées, mais ils ne sont pas, évidemment pas aussi riches, ou même très peu riches, puisque les œuvres sont plutôt dans les collections du monde. Je vous montre ici un reportage qui avait été tourné au moment, en 1978, il y a 40 ans, où on pensait que la restitution du patrimoine africain était imminente, que les pays européens étaient sur le point de comprendre qu'on ne pouvait pas tout garder chez nous et qu'il fallait rendre. C'était il y a 40 ans, on a bien oublié qu'on avait été déjà si près de certaines démarches. Et Roger Giquel, que vous reconnaissez là, avait au journal de 20h fait un grand sujet sur la question des restitutions. Et à l'intérieur de ce très grand sujet, il y a un court, une trentaine de secondes, où il interviewe un artiste africain en lui demandant qu'est-ce que ça fait de plus avoir son patrimoine chez soi.
Quelle est la réaction d'un Africain face à la dispersion de son patrimoine culturel?
Je trouve ça dramatique, dans le sens que moi-même, j'ai été élevé parmi ces masques dans lesquels où j'ai dansé avec, et j'ai vu ces masques partir un à un, et si c'est comme une bibliothèque qui brûlait...
Qu'est-ce que l'art pour un Africain?
C'est la lecture du peuple.
C'est extrêmement impressionnant ici de voir... Alors d'abord, cette question maladroite, qu'est-ce que l'art pour un Africain? Comme si l'art pour un Africain était quelque chose de très, très différent. Mais en tout cas, la réponse de cet artiste ici, c'est que l'art est une bibliothèque, quelque chose qui raconte. J'évoquais tout à l'heure ces plaques du Bénin ou ces ivoires gravés qui... raconte l'histoire d'une dynastie ou l'histoire d'un pays. Et quand on est privé de ses œuvres, et comme nous explique ici cet artiste, quand on voit partir une à une les œuvres, alors lui, il les a vues partir plutôt dans les années 60-50, bien sûr, par le marché, pas au moment de ces expéditions punitives du 19e siècle, mais en tout cas, quand on les a vues partir, c'est comme, dit-il, une bibliothèque qui brûle, c'est-à-dire comme une mémoire effacée. Et il faut toujours... penser le patrimoine, quand on a le privilège, nous, d'aller visiter les belles collections du musée du Quai Branly ou autre, toujours penser aussi aux endroits où ces œuvres ne sont plus. Et ce que ça peut faire à des régions entières, à des populations, d'être privé, d'être séparé de son histoire, quand cette histoire a été précisément marquée sur ces monuments. Et je voudrais finir sur un très beau texte qui date aussi de 40 ans, qui était en lien avec le reportage de Roger Giquel, hein, à l'instant, qui est un appel qu'avait lancé M. Amadou Martha Mbo, à l'époque directeur général de l'UNESCO, appel pour le retour à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine culturel irremplaçable. Il écrit sur cette première page « Le génie d'un peuple trouve une de ses incarnations les plus nobles dans le patrimoine culturel que constitue, au fil des siècles, l'œuvre de ses architectes, de ses sculpteurs, de ses peintres, graveurs ou orfèvres, de tous les créateurs de formes qui ont su lui donner une expression tangible dans sa beauté multiple et son unicité. Or, de cet héritage où s'inscrit leur identité immémoriale, bien des peuples se sont vus ravir, à travers les péripéties de l'histoire, une part inestimable. » Je vous montre le beau visage de M. Mbo. Puis on va regarder ensemble quelques extraits de ce texte qui fait simplement 3 pages. Hein, vous pouvez le consulter sur Internet. Il est extrêmement beau. Il est d'autant plus beau qu'il a 40 ans et qu'on se dit, oulala, qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans? Pourquoi on n'est pas allé, alors que les choses avaient été si bien comprises et pensées déjà à ce moment-là, pourquoi on n'est pas allé plus loin? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on revienne tant en arrière et que ce soit seulement maintenant que la question se repose? Éléments architecturaux, Statues et frises, monolithes, mosaïques, poteries, émaux, jade, ivoire, or gravé, masques. De l'ensemble monumental aux créations de l'artisan, les œuvres enlevées étaient plus que des décors ou des ornements. Elles portaient témoignage d'une histoire, l'histoire d'une culture, celle d'une nation dont l'esprit se perpétuait, se renouvelait en elle. Les peuples victimes de ce pillage, parfois séculaire, n'ont pas seulement été dépouillés de chefs-d'œuvre irremplaçables. Ils ont été dépossédés d'une mémoire qui les aurait sans doute aidés à mieux se connaître eux-mêmes, certainement à se faire mieux comprendre des autres. Ils savent, les peuples, certes, que la destination de l'art est universelle. Ils sont conscients que cet art qui dit leur histoire, leur vérité, ne la dit pas qu'à eux, ni pour eux seulement. Ils se réjouissent que d'autres hommes et d'autres femmes, ailleurs, puissent étudier et admirer le travail de leurs ancêtres. Et ils voient bien que certaines œuvres partagent depuis trop longtemps et trop intimement l'histoire de leur terre d'emprunt pour qu'on puisse nier les symboles qui les y attachent et couper toutes les racines qu'elles y ont prises. Aussi bien ces hommes et ces femmes démunis demandent-ils que leur soient restitués au moins les trésors d'art les plus représentatifs de leur culture, ceux auxquels ils attachent le plus d'importance, ceux dont l'absence leur est psychologiquement le plus intolérable. Cette revendication est légitime. Et puis après une page qui est un appel à différentes catégories professionnelles, on pourrait dire il s'adresse aux historiens, il s'adresse aux professeurs, il s'adresse aux artistes, il s'adresse aux journalistes en leur demandant de porter ce message. Et le texte finit par ces trois paragraphes, on va en lire deux. Enfin, je m'adresse avec une émotion et un espoir particulier aux artistes eux-mêmes, aux écrivains, aux poètes, aux chanteurs, pour les convier partout à témoigner que les peuples ont besoin aussi d'exister dans l'imaginaire. Restituer au pays qui l'a produit telle œuvre d'art ou tel document, c'est permettre à un peuple de recouvrer une partie de sa mémoire et de son identité, c'est faire la preuve que, dans le respect mutuel entre nations, se poursuit toujours le long dialogue des civilisations qui définit l'histoire du monde. C'est un très beau texte, très généreux, qui ne demande pas la destruction des musées européens, mais qui demande un partage plus juste. Un texte, je crois, qui peut nourrir les réflexions actuelles que l'on a, même si c'est frustrant, hein, je le disais tout à l'heure, de voir qu'un si beau moment, et on était à deux doigts en 1978, d'obtenir quelque chose comme un partage juste, qui se soit passé, rien passé pendant 40 ans. On peut dire que toute l'Europe a désormais une conscience plus aiguë du caractère problématique ou du malaise que peut susciter la présence de ces collections venues dans des conditions parfois violentes, ou peut-être toujours violentes, puisque même quand il y a eu un échange ou un achat, dans les conditions de la colonisation, ce n'est jamais quelque chose de particulièrement symétrique et voulu, qu'en tout cas, ces collections ne sont pas neutres historiquement et que quand nous, on en profite, on peut penser aussi à ceux qui ne les ont pas et qui n'en profitent pas. Il faut toujours penser ces deux faces du patrimoine.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 4 avril 2018 le cours de Bénédicte Savoie, Histoire transnationale des musées en Europe, aujourd'hui, admirer et détruire. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Bénédicte Savoie, richement illustrés, vous vous en doutez, et je vous recommande les vidéos de ces cours. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard sous le titre « Objet du désir, désir d'objet ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration de l'histoire transnationale des musées en Europe en compagnie de Bénédicte Savoie et nous nous pencherons sur la crise des musées. Dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.